Vous écoutez, on lit pour vous.
La télé au service des langues autochtones. Un texte d'Ophélie Doirot, paru le 3 mai 2024 dans La Liberté au Manitoba. La chaîne de télévision Aboriginal People's Television Network, APTN, cherche à obtenir une chaîne en langue autochtone à temps plein. Pour Adam Garnett-Jones, directeur du contenu télévisuel et des événements spéciaux à Aboriginal People's Television Network, l'accent sur les langues autochtones est une évidence. En ce moment, nous sommes dans la décennie des langues autochtones de l'ONU. La perte de la langue est l'un des problèmes les plus critiques dans nos communautés, dont nous entendons parler tout le temps. Nous voyons beaucoup de jeunes qui sont vraiment motivés pour se réapproprier leur langue, pour apprendre la langue, et qui veulent voir des programmes. Chaque année, lors de notre enquête annuelle auprès de nos téléspectateurs, la chose la plus fréquente qu'ils demandent est plus de programmes en langues autochtones. C'est dans cette optique qu'APTN a justement déposé une demande auprès du CRTC pour avoir une chaîne en langue autochtone à temps plein. Il nous semble que le moment est venu pour nous d'avoir une chaîne en langue autochtone diffusée 24 heures sur 24. Nous souhaitons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les efforts de toutes ces personnes en matière d'éducation et de récupération des langues. Aucune décision n'a encore été rendue par le CRTC, mais Paulette Duguay, présidente de l'Union nationale Métis Saint-Joseph du Manitoba, salue tout de même l'initiative. La vitalité des langues autochtones est une cause importante pour Paulette Duguay. C'est essentiel à la sécurité identitaire, à la sécurité linguistique. C'est gagnant à tous les niveaux. Des choix difficiles. Ce sont près d'une année à différents producteurs canadiens pour développement et diffusion. Durant l'année fiscale 2022-2023, ce sont 47 émissions, dont 25, étaient en une ou plusieurs langues autochtones. Pour sa programmation printanière, le diffuseur souhaite miser davantage sur les langues autochtones. D'ailleurs, la plupart des producteurs viennent par eux-mêmes avec certains projets. Comme l'explique le directeur du contenu télévisuel et des événements spéciaux à APTN, Adam Garnett-Jones, en général, les producteurs viennent nous voir avec un projet et nous disent, par exemple, qu'ils sont liés à une communauté Anishinaabe et qu'ils veulent réaliser une version du projet en Anishinaabemowin, parce que cela correspond à leur communauté et que le contenu a du sens. Nous ne disons pas aux producteurs, vous savez, nous aimons votre émission, mais vous devez la produire en déné ou quelque chose comme ça, non. Il faut que l'envie vienne du producteur. Toutefois, c'est un travail d'équilibre de produire en anglais ou en français et dans une langue autochtone. Adam Garnett-Jones rappelle des critères à APTN. Si un projet est présenté en français ou en anglais, il y a évidemment du sous-titrage. Mais il y a une partie hybride qui peut rester, c'est-à-dire que la majeure partie de l'émission est donc en anglais ou en français, avec un minimum de 20% de langue autochtone parlée à l'écran dans chaque épisode. Nous essayons de choisir 20% qui semblent les plus naturels. Nous ne voulons pas forcer la traduction, pour que finalement personne n'ait envie de regarder l'émission par manque de naturel. Il arrive aussi tout simplement que le producteur ait fait le choix d'avoir l'émission dans plusieurs langues. Il arrive donc que nous ayons 4 versions d'une émission dans différentes langues qui sont toutes diffusées à des heures différentes et dans des blocs différents. L'enjeu de la traduction. Là encore, la traduction demande un travail d'équilibre, puisque parmi les critères d'APTN, il y a la contrainte de temps. En effet, pour constituer une grille horaire de programmation, APTN se base sur la durée des épisodes. Peu importe la langue, un épisode d'une même émission doit avoir la même longueur. Il doit durer le même temps. De plus, ça coûte aux producteurs beaucoup plus d'argent s'ils doivent faire un montage complètement différent de l'émission de télévision. Nous avons aussi des durées standards pour les épisodes parce que nous devons faire des promos et des publicités et tout ce genre de choses. Donc oui, il faut que cela reste le même. D'où l'importance d'avoir des traducteurs qualifiés, comme le reconnaît Adam Garnett-Jones. C'est difficile, surtout quand on prend une émission en anglais et qu'on la double en langue autochtone. L'anglais a tellement de mots qui sont spécifiques à des idées ou des objets individuels et que la plupart des langues autochtones sont plus descriptives. Il n'y aura donc pas un mot, plutôt un descriptif de l'action ou de la scène. Nous comptons donc beaucoup sur nos traducteurs pour trouver un moyen de traduire la langue de manière à ce qu'elle ait du sens et qu'elle communique l'idée. Mais il ne pourra jamais s'agir d'une traduction mot pour mot parce que cela ne pourrait jamais fonctionner. L'importance des médias dans la conservation des langues. Il est bien connu que les médias et la notion de « soft power » vont de pair. Le « soft power » est un concept développé par le professeur Joseph Nye et fait référence à la capacité d'un pays à influencer d'autres pays sans imposer de contraintes. Mais au-delà d'accentuer l'empreinte culturelle d'un pays sur le reste du monde, les médias jouent également un rôle crucial dans la sauvegarde des langues. Ainsi, la mise en place d'une chaîne télévisée en langue autochtone est loin d'être anodine. Elle pourrait, au contraire, s'avérer salvatrice pour les langues autochtones qui sont en déclin. Plusieurs docteurs et professeurs ont d'ailleurs écrit sur le sujet. Par exemple, le docteur Alain Flaubert Takam, professeur de lettres modernes et de linguistique à l'Université de Lethbridge en Alberta. Dans son étude intitulée « Revitalisation des langues minoritaires par les médias, étude de quelques stratégies de promotion des langues autochtones au Canada », le professeur indique noir sur blanc, dès les premières lignes, « Les médias contribuent de façon décisive à la revitalisation des langues dans le monde. La radio et la télévision promeuvent la langue parlée, les journaux la langue écrite et l'Internet les deux. Ces médias peuvent en effet aider à la standardisation des langues minoritaires ainsi qu'au changement de la perception et des attitudes linguistiques et culturelles par rapport à ces langues. Plus intéressant encore, la présence prédominante de certaines langues dans les médias publics pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des langues en situation minoritaire. C'est ce qu'écrivent Onowa McIver, professeure agrégée et ancienne directrice de l'éducation autochtone à l'Université de Victoria, et Teresa L. McCarthy, professeure émérite, professeure de linguistique appliquée et co-directrice du Center for Indian Education à l'Arizona State University. Alors que de nombreux jeunes ressentent clairement le lien avec leur culture en apprenant leur langue. Les influences des médias populaires dans les langues dominantes peuvent être écrasantes et préjudiciables à la revitalisation de la langue. C'était « La télé au service des langues autochtones », un texte de Philippe Doirot, paru le 3 mai 2024 dans La Liberté, au Manitoba.
Combattre les préjugés, un policier et un jeune à la fois. Un texte de Louise Leduc, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. Dans 4 ans, c'est moi qui lui remets son badge. lance la policière Sophia Brass-Girdul, agente socio-communautaire au service de police de la ville de Montréal. Wilfried Edoux n'est pas encore inscrit en technique policière, mais au poste de quartier de la Chine. On l'a plus que repéré. On l'a presque adopté. Il compte aujourd'hui parmi les 15 participants du tout nouveau programme de parrainage de jeunes de communautés ethno-culturelles par des policiers du SPVM. Le système n'a pas échappé Wilfried. Pour lui, il n'y a pas eu de maille du filet mal tendu. Arrivé du Cameroun à 14 ans, il a fréquenté l'école secondaire d'Albivio, un établissement de la Chine situé dans un milieu défavorisé. C'est là qu'il a fait la connaissance de deux policières qui, elles, avaient proposé à leur commandant d'aller toute l'année passer un midi par semaine dans cette école et une autre journée à l'école secondaire anglophone Lakeside, dans le même quartier. Le but de cette initiative, comme celui du programme de parrainage, se rapprocher des jeunes, mettre à mal les préjugés qu'ils ont sur les policiers, préjugés qui leur sont souvent transmis par leur famille, explique Ismaël Sougou, conseiller en développement communautaire au SPVM. Quand nous sommes arrivés dans l'école, Sophia et moi, les jeunes étaient méfiants. Ils pensaient qu'on était là pour procéder à des arrestations, explique la policière Véronica Tchéki-Matei, elle aussi agente socio-communautaire. Ça fait 2 ans que nous sommes présentes dans l'école. Nous faisons maintenant partie intégrante du décor. Un midi, quand il a vu les deux agentes à l'école, Wilfried Edoux, qui rêve depuis qu'il est enfant d'être policier comme son grand-père, n'a pas raté sa chance. Les agentes Sophia Brass-Girdul et Véronica Tchéki-Matei portaient l'uniforme, se souvient-il, mais on pouvait discuter avec elles en toute simplicité. Ça m'a surpris. Au Cameroun, les policiers, c'est l'autorité, on ne peut pas les approcher comme ça. Aussitôt, il les a bombardés de questions. Comment devient-on policier? Dans quel programme faut-il s'inscrire? Dans quel cégep? Autour de lui, les jeunes disaient à Wilfried qu'il ne devait pas parler aux policières. On me disait que les policiers sont racistes. Moi, je disais que j'allais aller le vérifier par moi-même. Voyant sa motivation hors du commun, les deux policières ne l'ont plus lâché. Elles lui ont donné des devoirs. « Tu ne sais pas bien nager, va t'inscrire à un cours de natation. Fais ton entraînement physique. Présente-toi donc à la maison des jeunes, ce sera bon pour toi. Réfléchis à ton inscription au cégep. Tu as l'âge du permis de conduire, fais des démarches pour l'obtenir. » Dès qu'on lui suggérait d'entreprendre quelque chose, la fois suivante, il nous répondait « C'est fait. » « C'était remarquable, » relève Véronica Tchéki-Matei. Mais à un moment donné, les notes de Wilfried se sont mises à dégringoler. Puis il n'a plus été vu à l'école pendant 2 ou 3 semaines. Les deux policières s'en sont inquiétées. Où est passé Wilfried? Quand il est revenu, il a expliqué que le climat familial ne l'aidait pas à se développer, qu'il avait choisi de lui-même de communiquer avec la DPJ. Un encadrement pour bien se lancer dans la vie. La maison de jeunes l'a pris sous son aile. Les policières ne l'ont pas lâché non plus. Et aujourd'hui, même s'il a atteint 18 ans, l'âge où typiquement les jeunes de la DPJ sortent de foyer avec leurs petites valises sans aucun encadrement, Wilfried continue d'avoir un certain suivi de sa travailleuse sociale. Il bénéficie aussi de prêts et bourses jusqu'à ses 25 ans, qui sont conditionnels à ce qu'il reste à l'école et qui doivent être redemandés chaque année, précise-t-il. En parallèle, Wilfried avait aussi eu vent qu'un programme de jumelage du SPVM avec des jeunes était en préparation. Le programme n'était pas encore en place, il a commencé en avril, que Wilfred n'arrêtait pas de me téléphoner, dit en riant Ismaël Sougou, le conseiller en développement communautaire. « Un vrai fatigant », lance-t-on en riant. Non, non, c'était toujours fait avec grande politesse. Il parlait de Madame Sophia, de Madame Véronica, relève Ismaël Sougou. Wilfried Edoux a obtenu une place au sein du programme de parrainage. Il a ainsi pu faire quelques patrouilles, de vraies patrouilles avec de vrais policiers. et pendant une intervention, il a été témoin d'une scène dramatique qui, sans l'exposer à un danger, aurait pu lui ôter pour toujours l'envie de travailler dans un service d'urgence. « Je n'ai pas eu de mauvais rêves par la suite », raconte-t-il, disant que sa réaction à sa situation l'a convaincu qu'il avait les nerfs assez solides pour faire ce métier. En juin, quand le SPVM a eu des billets pour voir jouer le CF Montréal, il en a tout de suite remis un à Wilfried, qui est passionné de soccer. Une fois au match, en jasant, il a laissé entendre à quel point ça serait malade qu'il décroche un emploi d'été au stade. La policière Sophia Brassegirde lui a dit « Envoie-moi ton CV, je m'en occupe ». Le lendemain matin, il me l'apportait. Et la semaine suivante, il m'a lancé « Madame Sophia, j'ai eu la job ». Je travaille dans la loge VIP tout près du terrain, explique fièrement Wilfried. Les difficultés familiales qu'il a rencontrées lui ont valu quelques mauvaises notes ici et là. Il a dû reprendre un cours, améliorer sa cote R. Comme il n'avait pas encore son diplôme d'études secondaires, son entrée chez les cadets policiers a été retardée. Il vient de commencer le cégep en sciences humaines et il garde le cap. L'objectif demeure plus que jamais pour lui d'être accepté en technique policière. Sophia et Véronica n'ont pas l'ombre d'un doute. Ce n'est qu'une question de temps. Wilfried deviendra policier. « Nous allons porter l'uniforme ensemble », dit Sophia Brassegirdel. C'était « Combattre les préjugés, un policier et un jeune à la fois », un texte de Louise Leduc, paru le 14 septembre 2025 dans la presse.
Ces plantes potagères qui aiment l'ombre. Un texte commandité paru le 27 mai 2024 dans la presse. La lumière naturelle se fait rare sur votre petit lapin de terre. Le jardinier amateur que vous êtes devra probablement mettre une croix sur la culture de ces beaux légumes qui se gorgent de soleil, comme les tomates, les concombres et les poivrons. Qu'à cela ne tienne, le règne végétal déborde de plantes potagères, d'herbes et de légumes racines qui ne craignent pas un peu d'ombre. Ciboulette. Cette vivace pourrait bien remporter le titre de plante la plus facile à faire vivre. Que ce soit au jardin, dans une plate-bande, en jardinière ou dans un pot de fortune déposé sur le rebord de la fenêtre, la ciboulette se cultive sans chichi, peu importe l'endroit où vous l'installez. Étant de la même famille que celle de l'ail et de l'oignon, elle s'utilise en garniture un peu partout en cuisine, le saviez-vous. Ses fleurs mauves sont comestibles, elles aussi. Choux. Les choux à feuilles vous pardonneront de les reléguer à la mi-ombre. Si votre jardin profite de quelques heures d'ensoleillement, vous devriez être en mesure d'y récolter du chou frisé, kale, du brocoli, du chou chinois, du chou pommé. À supposer que vous ayez le pouce vert, même le chou-fleur pourrait vous réussir. Cependant, il faut savoir qu'il nécessite plus de rayons que ses cousins. Cresson. Cette plante herbacée aime le soleil, mais sait se contenter d'une zone mi-ombragée. À la différence du cresson de fontaine qui pousse dans les cours d'eau et en bordure de ceux-ci, les variétés de jardin se cultivent en terre ou même en pot. En cuisine, le goût poivré du cresson donne du panache aux salades, aux soupes et aux sandwichs, dans lesquels il remplace à merveille la laitue. Hosta et hémérocal. Oseriez-vous piger dans vos talles de plantes décoratives pour garnir votre assiette? Les jeunes pousses d'hosta et d'hémérocal, qui tolèrent toutes les deux l'ombre, sont comestibles, caractérisées par un goût rappelant celui du poireau. Elles se dégustent cuites à la vapeur, légèrement sautées ou même crues en salade. La fleur d'hémérocal fauve, elle, s'apprête comme la fleur de courgette. Dans sa plus simple expression ou complètement transformée, frite dans une pâte tempura. Mâche. Petite verdure à la coine dure, Ramage tolère sans difficulté le froid et le manque d'ensoleillement. Bien qu'il soit possible de la planter dès le printemps, cette plante merveilleuse gagne à être semée une fois les grandes chaleurs passées afin d'obtenir une récolte automnale tardive. Elle se cultive dans un sol sablonneux. Servie avec une vinaigrette délicate versée sur elle juste avant le service, la mâche ajoute une touche de verdure à vos assiettes à une période de l'année où les légumes d'ici se font plus rares. Mélisse. S'accommodant d'une poignée d'heures d'ensoleillement par jour, la mélisse fraîchement cueillie donne un parfum citronné aux salades et aux infusions. On attribue d'ailleurs à cette plante aromatique des vertus relaxantes et digestives. Avis aux jardiniers et jardinières qui disposent d'un balcon ou d'une petite cour, la mélisse pousse en terre, mais aussi en pot ou en jardinière. Vous pouvez donc joindre l'utile à l'agréable en cultivant cette vivace généreuse qui égaiera aussi votre espace extérieur. Navet. Facile d'entretien. Ce légume racine prospère dans des conditions d'exposition plein soleil ou mi-ombre. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il existe toute une variété de navets à cultiver et à savourer. À ne pas confondre avec le rutabaga, le navet s'apprécie en crudité, en salade, dans les ragoûts, dans les soupes ou en purée. Ce véritable aliment passe-partout se conserve une éternité, ou presque, au réfrigérateur. C'était « Ces plantes potagères qui aiment l'ombre », un texte commandité, paru le 27 mai 2024 dans La Presse.
Des fleurs dans votre assiette, un texte de Lise Gobeil, paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne. Lise Gobeil est horticultrice. Après avoir œuvré au Jardin botanique de Montréal pendant 25 ans, elle s'est tournée vers la communication et la diffusion des connaissances en horticulture. Elle a tenu la barre d'une émission de radio et a réalisé nombre de chroniques pour la radio et la télévision, entre autres à Radio-Canada. De nombreuses plantes du jardin produisent des fleurs étonnamment délicieuses. Les trois présentées ici sont même peut-être déjà cultivées dans le vôtre depuis des années. Cet été, faites l'expérience de cueillir ces jolies fleurs pour illuminer vos plats de leur saveur et de leur teinte. Les bégonias. Quelle surprise d'apprendre que les bégonias, ces plantes ornementales parmi les plus populaires, sont comestibles. Le goût acidulé de leurs fleurs, tout comme le croquant de leurs pétales, sont épatants. Faciles à cultiver, les bégonias exigent toutefois un sol riche en compost en vue d'un développement optimal. Selon la sorte, Begonia semper florens, ou le groupe des hybrides de B. tuberosa, on les placera à l'ombre, à la mi-ombre ou au soleil. La multiplication se pratique par semis, division ou bouturage. À moins de posséder des notions de jardinage, l'achat est plus simple, car leur multiplication est délicate. Ces plantes annuelles fleurissent de juin à octobre, offrant ainsi une longue saison de récolte. Les fleurs s'utilisent fraîches en salade verte ou en salade de fruits, sur les gâteaux ou encore sur le poisson et la volaille après cuisson. Les capucines. Les plus connues des fleurs comestibles sont les capucines. Cette notoriété résulte de leurs nombreuses qualités. Une saveur poivrée remarquable, des couleurs éclatantes et une agréable texture. Cette plante annuelle est facile de culture, mais quelques trucs permettront d'en améliorer le succès. Dans le but d'obtenir des fleurs à profusion, le sol doit pouvoir bien se drainer et n'être pas trop riche en compost. Un emplacement en plein soleil est préférable, quoique la mi-ombre soit tolérée. Le semis se réalise directement en pot ou en jardin. La floraison s'étend, comme celle des bégonias, de juin à octobre. Si certains horticulteurs font sécher les fleurs, elles sont à leur meilleure fraîche, les pucerons adorant les fleurs de capucine. Il est recommandé d'en faire l'inspection avant de les consommer. En cuisine, les fleurs ajouteront du piquant et de brillants coloris aux salades, en plus de décorer admirablement une assiette. Pareillement comestibles, les jeunes feuilles et les graines fraîches ont une saveur plus puissante. La ciboulette. Renommée pour son feuillage, la ciboulette l'est beaucoup moins pour ses fleurs. Si leur goût, un subtil mélange de poireaux, d'oignons et d'ail, ressemble à celui du feuillage, il est néanmoins plus délicat. Cette plante vivace très rustique se cultive facilement et croît dans tous les types de sols, quoiqu'elle préfère un sol riche, léger et humide qui se draine bien. Un emplacement ensoleillé ou à la mi-ombre lui conviendra. La multiplication se fait par semis ou par division. Sa floraison de courte durée a lieu au mois de juin. C'est avant l'apparition des fleurs que les feuilles sont le plus savoureuses. Par conséquent, il est préférable d'avoir une touffe de ciboulette destinée uniquement à la récolte des feuilles qu'on cueillera en coupant les hampes florales, et une autre touffe vouée aux fleurs. Ces dernières seront du plus bel effet, saupoudrées fraîches sur la soupe, le poisson ou la viande, ainsi qu'ajoutées à la salade dans une omelette ou une trempette. En outre, elles parfumeront merveilleusement un beurre ou une vinaigrette. Quelques centaines de fleurs comestibles ont été répertoriées. Plusieurs d'entre elles sont des fleurs ornementales et des fines herbes. Il y a donc un monde à découvrir à portée de main dans votre coin de jardin. Prudence, cependant, car il faut toujours s'assurer de la comestibilité d'une fleur inconnue avant de la consommer. Bonne dégustation. Conseil en vrac. Les bégonias, les capucines et la ciboulette se trouvent fréquemment dans les marchés ou les jardineries. Si les plants ne proviennent pas de cultures biologiques, il faut attendre un mois après l'achat avant d'en consommer des fleurs afin de laisser le temps aux pesticides de se dissiper. Ces trois plantes se cultivent autant en pot qu'en terre au jardin. Plus les fleurs seront récoltées régulièrement, plus les plants en produiront. Pour un maximum de fraîcheur, on cueillera les fleurs peu de temps après leur éclosion. Elles se conserveront quelques jours au réfrigérateur dans un contenant tapissé d'un tissu humide. C'était « Des fleurs dans votre assiette », un texte de Lise Gobeil, paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne.